Chapitre 17. Je me retourne lentement. Crovin me tient en joue et derrière je distingue la silhouette élancée de Nina. Je ne les avais pas entendus venir. Je m'exécute, mais je prends soin de ne pas jeter le fusil trop loin. Il est armé et il lui reste encore un coup à tirer. Je remarque que Crovin est gaucher et que Nina se tient à sa droite. Décidément, c'est une manie chez vous. Vous essayez de liquider mon adjoint et maintenant, vous assassinez froidement un officier de sécurité de l'armée rouge. Je n'ai fait que me défendre. Votre officier a essayé de m'abattre froidement. Ben voyons. Et le lieutenant Barsky, lui aussi, avait essayé de vous tuer. Non, c'était un accident des plus fortuits. D'ailleurs, Nina peut vous le confirmer. Effectivement, Nina s'avance pour lui faire face et dit doucement quelques mots en russe au colonel. Mais celui-ci, visiblement énervé, ne l'écoute pas. Il lui crie quelque chose dans un ton sans réplique et la tire vigoureusement par le bras afin de l'écarter de son champ de vision. Nina baisse les yeux et s'immobilise instantanément, telle une statue de marbre pâle et muette. Mais le message est passé. Nina va de nouveau s'interposer entre Crovin et moi. Ce sera le moment d'agir. Alors, vous pensiez vous en tirer comme cela? Mais enfin, de quoi vous parlez? Le banquier d'Hitler pensait nous flouer. Effectivement, que peut-on espérer d'un ami de Reinhard Heydrich? Tromperie et mensonge. Je ne fais pas que feindre la surprise. Ne faites pas l'innocent, et encore moins la victime. Vous avez peut-être pu séduire le camarade Beria et tromper Efimov, mais moi, je sais que vous êtes un être avide, tortueux et perfide. Je me tais et j'essaie de profiter du discours haineux de celui qui me tient en joue pour mesurer mes chances. S'il me tire dessus à cette distance, ce que manifestement il a l'intention de faire, je suis un homme mort. J'espère qu'il continuera à m'accabler de reproches et si jamais il se trouve miraculeusement distrait de nouveau par ma belle russe, je risque le tout pour le tout. Je me jette sur mon fusil et je tire. Crovin, effectivement, ne peut pas s'empêcher de m'humilier davantage. Alors, vous avez cru nous embrouiller avec cette histoire de Bormann? Mais je vous jure qu'il a essayé de vous flouer et de récupérer l'argent de Hitler pour son propre compte. Non, monsieur, Martin Bormann est venu pour faire valoir ses droits, nos droits, et vous l'avez conduit en prétextant je ne sais quelle faribole légale. Mais c'est faux, je lui ai même dit de revenir pour récupérer de l'argent. Des miettes, oui, maintenant, il suffit. Mais enfin, pourquoi me tuer? Ma mort vous priverait de tout accès au compte et vous n'auriez plus aucun moyen de récupérer cet argent. Mais si, nous disposons d'un atout. Ah oui, et lequel? Mais Martin Bormann, justement. Au point où nous en sommes, je n'ai plus besoin de vous cacher la vérité. Le secrétaire d'Hitler travaille pour nous. Bormann a toutes les autorisations nécessaires et en fin de compte, je pense que nous pourrons nous passer de vous. Bormann travaillait pour vous. Vous n'allez pas recommencer avec cette fable de Bormann travaillant contre nos intérêts. Quand je dis « travailler », cela veut dire qu'il ne travaille plus du tout. Comment cela? Il n'est pas sorti du cadre, à ma connaissance. Oh que si, il est même complètement sorti du cadre. Ce qui veut dire, il est carrément sorti du cadre de la vie. Il est mort. Je lis sur le visage de Crovin un ahurissement teinté d'incrédulité, mais il se ressaisit rapidement. Bien essayé, cher ami, bien essayé, mais je ne vous crois pas. Mais puisque je vous dis que Bormann est mort, m'écriai-je, vous mentez. J'essaye désespérément de gagner du temps. Enfin, c'est ridicule, demandez à vos supérieurs. Crovin m'observe menaçant. Je ne mens pas. Nina, qui doit trouver l'argument concernant le recours à la hiérarchie judicieuse, essaie de raisonner son supérieur. Elle s'interpose de nouveau entre le colonel et moi. De nouveau, Crovin l'empoigne brutalement et tente de la repousser violemment, mais cette fois-ci, Nina résiste. C'est le moment ou jamais. Je n'ai même pas le temps de réfléchir et déjà je suis en l'air, je me jette à terre et me saisis précipitamment de mon fusil. Comme dans un rêve, j'entends partir un coup de feu et j'ajuste mon arme vers la silhouette de Crovin, à moitié cachée par Nina, qui me semble à genoux. Sans hésiter, je fais feu à mon tour. Une gerbe de chair et de sang se détache instantanément de son épaule gauche et Crovin semble tourner sur lui-même, tel un pantin désarticulé. Je me précipite vers lui et lui assène un fabuleux coup de crosse sur l'épaule à moitié emporté par mon projectile. Cette douleur supplémentaire sur la chair meurtrie lui fait pousser un hurlement inhumain et j'en profite pour lui porter un autre coup terrible sur la nuque, ce qui le fait s'effondrer instantanément et en silence. Je récupère son arme de service, fermement décidé à l'achever, quand soudain, dans un éclair de lucidité, je me rappelle de Nina à terre. Je me précipite vers ma belle russe. La jeune femme est toujours à genoux. Elle reste ainsi immobile, semblant implorer je ne sais quelle divinité dans une prière muette. « Nina, Nina, ça va ?» Elle ne répond pas. Je m'accroupis en face d'elle et lui prends les épaules entre mes mains. Elle a les yeux grands ouverts et un mince filet de sang lui coule entre les lèvres. Sa pelisse est d'une pâleur extrême et de la main gauche, elle tient le côté droit de sa poitrine que marque déjà une tache d'un rouge sombre. « Nina, tu m'entends ?»«
Oui, » souffle-t-elle dans un murmure à peine audible. « Dieu merci, tu es en vie, Gottfried. Je n'ai pas voulu cela. »«
Mais non, bien sûr. Ne parle pas. Je vais chercher du secours. »«
Non, » dit-elle d'une voix plus ferme. « Ne pars pas. Pas maintenant. Reste avec moi. »
Ma vue s'est brouillée et les larmes que j'essayais désespérément de contenir pour la rassurer se mirent à couler.
« Je reste, mon amour. Je suis là, avec toi. » Le ventre serré par l'angoisse et le désespoir, je crierai presque de douleur.
« Mon amour, » reprit-elle, « comme cela sonne bien, promets-moi de me garder auprès de toi. »«
Je te le jure, Nina, je te le jure. »
Et je la pris dans mes bras.
« Pour toujours ?» articula-t-elle péniblement.
« À jamais. »
« Alors tout va bien. » Elle posa doucement sa tête sur mon épaule, soupira, se raidit subitement, puis se détendit de nouveau. Elle ne respirait plus. Mon ami venait de rendre son dernier souffle.
Ma si belle et tant courageuse Nina avait franchi les portes de l'au-delà, dans mes bras, sans une plainte, les yeux grands ouverts. Je lui fermai les yeux et la serrai de toutes mes forces contre moi. Tout à ma douleur, je suis secoué par une crise de sanglots irrépressibles qui dure et que je ne sais même plus de contrôler. Je suis tiré de ma procrastination par un gémissement non loin de moi. C'est Crovin. Il est revenu à lui et râle douloureusement, l'épaule arrachée et la nuque brisée. La rage au ventre, je viens me placer au-dessus de lui.
« Tu souffres, camarade ?»«
Oui, je vois bien que tu souffres. Je vais t'aider. »
Il me regarde incrédule.
« Je vais abréger tes souffrances. » L'incrédulité fait place à la peur. Je le mets en joue lentement et le vise avec application. Je lis la terreur dans ses yeux. J'ai honte, mais cela me procure presque du plaisir. Un plaisir mauvais mais intense, un mal jouissif. Ses yeux froids, qui ont envoyé à la mort des centaines, peut-être des milliers d'innocents sans ciller, qui ont vu Nina tomber et qui allaient observer impassible ma propre exécution, imploraient la commisération. Que Dieu me pardonne, mais cette fois-ci, je ne pus me résoudre à la pitié. Je lui logeai une balle entre les deux yeux, des yeux qui, pour la première fois, depuis bien longtemps, exprimaient des sentiments humains. À peine l'écho du coup de feu évanoui dans la forêt, qu'une voix gronda dans mon dos. « C'est une grave erreur, monsieur le comte. » C'était Efimov, accompagné d'une demi-douzaine de soldats. « Il a tué Nina, et il allait m'exécuter, mon général. »«
Certes, mais est-ce là une raison pour oublier toute prudence ? Que voulez-vous dire ?
Eh bien, à la chasse, on utilise des fusils. Comment vais-je maintenant pouvoir présenter ces tragédies comme un regrettable accident de chasse ?» Devant mon air incrédule, il continua. « Vous venez d'achever le colonel Crovin avec son Tokarev. Désolé, mon général. Vous pouvez l'être. Bon, on trouvera bien quelque chose. » Un des soldats vint me prendre l'arme de service de Crovin et Efimov me fit signe de récupérer mon fusil. Je retournai vers le corps de Nina et me mis à genoux pour une ultime prière en hommage à la femme qui venait de me sauver la vie. La femme que j'aimais venait de se sacrifier pour moi. Efimov m'accompagna sans mot dire. « Quel gâchis, pauvre fille, quelle tragédie » lâcha-t-il enfin. Il me répéta ces mots à plusieurs reprises et me posa amicalement la main sur l'épaule. « Venez, rentrons, mes hommes vont s'occuper de Nina. » Nous prîmes place à bord du tout-terrain et après une bonne demi-heure, Efimov rompit le silence. « Monsieur le comte, je dois vous dire que c'était une initiative individuelle du département de Crovin, une initiative du SMERCH, que ma direction et moi désapprouvons. D'autant plus que Bormann est mort, » dis-je d'un ton acide. « Oui, monsieur le comte, on a cherché à vous intimider, je ne peux le nier. Mais suite aux dernières informations que vous m'avez communiquées, et à ceci, » il exhiba une enveloppe, « je me suis précipité pour empêcher Crovin de mettre son plan en œuvre. » Et je vous jure que j'ignorais qu'il avait l'intention de vous exécuter. Puis-je le croire ? Après tout, peu importe. Il sortit de l'enveloppe le radiotélégramme qu'il venait de recevoir et me dit d'un ton des plus conciliants. Vous aviez raison. On vient de m'informer à l'instant de la disparition de Bormann. Heureusement que vous êtes sain et sauf. Je suis vraiment désolé. Je décidai de pousser mon avantage. Puis-je vous demander un service ? Tout ce que vous voudrez. Je souhaiterais que vous nous rameniez, Nina et moi, en hélicoptère à ma propriété en Suisse. Efimov n'hésita pas une seconde.
« Bien sûr. Mais pourquoi Nina ?»«
Eh bien, général, je lui ai promis de la garder auprès de moi, à jamais. Et voyez-vous, j'ai bien l'intention d'honorer ma promesse. Nina sera inhumée dans mon caveau familial où, le moment venu, j'irai la rejoindre. Pour l'éternité, » dis-je en contenant difficilement ma douleur.
« Je comprends. Puis-je vous demander une ultime faveur ?»«
Bien sûr. » Pouvez-vous faire le nécessaire pour que sa famille puisse venir lui rendre un dernier hommage et assister à ses funérailles ? Cette fois-ci, c'est le regard d'Efimov qui s'embruma. Il va sans dire que je m'occuperai de tout.
Il ne s'agit pas de cela, monsieur le comte. Nina est orpheline.
Cette fois-ci, je ne pus me retenir. Mes larmes se remirent à couler. J'étais moi, Gottfried von Adler, la seule personne que Nina avait en ce bas monde. Nina, elle ne m'avait jamais rien dit.
J'essaye péniblement de me ressaisir en articulant un misérable. Je ne le savais pas. Et vous ne pouviez pas savoir. Elle ne vous l'aurait jamais dit. Mais, avec votre permission, je représenterai sa seule famille, l'Union soviétique. Après tout, elle s'est sacrifiée pour les intérêts supérieurs de son pays. Bien sûr, vous êtes le bienvenu. Nina aurait apprécié. Vous savez, général, elle ne vous a jamais trahi. Bien sûr que je le sais, Nina était mon meilleur agent. Devant ma surprise, il reprit. Et oui, le GRU était son véritable employeur. Il était affecté à mon service. Et elle avait pour mission de surveiller Krovin et de vous protéger des manigances tortueuses du SMERCH. Mission qu'elle accomplit au prix de sa vie. Non, monsieur von Adler, confidence pour confidence, Nina nous est restée loyale, certes, mais il faut que vous sachiez qu'elle ne vous a jamais trahi non plus. Ce n'est pas sa mission qu'elle accomplissait en se sacrifiant, pas du tout. Elle voulait tout simplement protéger l'homme qu'elle aimait. Mes condoléances, monsieur le comte. Le reste du trajet se fit en silence. Nous arrivâmes bientôt au QG d'Efimov. Comme convenu, le général donna des ordres et l'hélicoptère nous ramena, la dépouille de Nina et moi, au château familial à la tombée du jour. Je fis placer la dépouille de ma belle dans la chapelle du château et restai à la veillée toute la nuit. Les funérailles furent sobres et émouvantes. Nina Vladimirovna fut portée dans le caveau familial des von Adler et je l'accompagnai avec mes plus proches. Efimov était présent en grand uniforme et il apporta la décoration posthume de Nina, la plus haute distinction russe, héros de l'Union soviétique. Masson était venu accompagné de Monica, en civil évidemment. Mon vieil ami et complice, Constant Gardien, et son épouse, ainsi que mes plus proches collaborateurs de la banque, étaient venus me manifester leur marque de sympathie et me soutenir dans l'épreuve. La cérémonie finie, et la plupart des invités partis, je me fis un devoir de présenter Roger Masson à Efimov. Je m'adressai au général russe. Monsieur Masson, un excellent ami de Monica. Monsieur Masson, je vous présente le général Efimov, l'homme qui nous a rendu Monica. Masson se fit très aimable. Qui ne connaît pas le procureur Efimov qui a porté avec panache et distinction haut les couleurs de la justice soviétique sur la scène internationale? Efimov ne fut pas en reste. Tout le plaisir est pour moi, général. Bien peu nombreux sont les officiers du GRU qui peuvent saluer Roger Masson. Vous savez, on m'a beaucoup parlé de vous. Il me fit un clin d'œil et continua. Oh, rassurez-vous, pas du côté de M. von Adler. Vous connaissez sa discrétion. Masson acquiesça d'un brève mouvement de tête. « Il ne manque pas d'humour non plus, » reprit le russe. « Il vient de vous présenter, vous, le patron du service secret suisse, au chef du département étranger du GRU, comme un ami de Monica. »« Personne n'est parfait, » concéda finalement Masson dans un sourire de connivence qu'il partagea affablement avec le russe. Masson ne se laissa pas distraire longtemps par ses futilités et profita de l'occasion pour faire avancer ses affaires et celles de la Confédération. « Eh bien, cher ami, puisque les présentations sont faites, puis-je éventuellement vous proposer de nous revoir, officiellement cette fois-ci, à Berne, au ministère des Affaires étrangères? Mais certainement, je suis à votre disposition. »« Parfait. Alors, rendez-vous est pris. Nous prendrons contact avec votre ambassade. » Masson parti, je restai seul avec Efimov. « Eh bien, merci, monsieur von Adler. Ce fut un hommage émouvant rendu à notre Nina. Et puis, rencontrer Roger Masson en personne, c'est un privilège bien rare. » « Vous devriez mettre à profit ce privilège pour régler ces histoires de restitution de fonds allemands, lui conseillai-je. »« Je vois. Merci encore, monsieur le comte. Nous n'oublierons pas tout ce que vous avez fait pour servir notre juste cause. » Je le repris assez sèchement. « Oh que si, vous allez honorer votre promesse et m'oublier bien vite et pour longtemps. Bien sûr, je ferai le nécessaire. Alors, merci et adieu. »« Adieu, monsieur le comte, von Adler, von Kriegelstein, von Waldenburg. » « Comment diantre connaissez-vous mon patronyme complet ?»« Allons, Gottfried, je vais vous mettre sur la voie. J'ai quelque chose pour vous. » Il fit venir son chauffeur, qui lui remit un coffret en bois fin de Sibérie. « Je pense que Nina aurait souhaité que ce trésor vous revienne. C'était, après vous, bien sûr, son bien le plus précieux. » Là-dessus, il me tendit la main, puis, après une brève hésitation, me prit dans ses bras et me serra fort. Ému, je lui rendis son accolade. Il se retourna et partit. Je rentrai dans mon cabinet de travail, m'installai à mon bureau et ouvris précautionneusement le coffret finement ouvragé d'Efimov. Je reconnus immédiatement le velours vert de la boîte de ma mère. C'étaient les émeraudes de Bajazet.